Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'influence spirituelle de Déborah dans Juges, chapitre 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et, depuis Harosheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous les chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Amen. Nous savons que le livre des Juges a été écrit dans un contexte de relâchement spirituel. Les enfants d'Israël s'étaient constamment éloignés de Dieu. Donc on parle d'une période de déclin, une période d'apostasie, de rejet de Dieu. Le peuple avait abandonné l'Éternel et du coup l'Éternel avait livré le peuple entre les mains de ses ennemis. Ça nous donne une leçon, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu et ce qu'on sème, un jour on le récolte. Là, ils avaient semé l'apostasie, le rejet de Dieu, eh bien ils ont récolté tout ce qui en a été les conséquences, c'est-à-dire l'esclavage, la domination du peuple ennemi. Il y a un livre clé dans le livre des Juges qui revient souvent, c'est dans le Juges chapitre 17 verset 6, ce verset qui montre un peu l'état spirituel du peuple tout au long de ce livre. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Voilà la situation. Il n'y a pas de roi, les gens sont livrés à eux-mêmes, ils font ce qu'ils pensent bon, mais ils ne prient pas, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu et ils s'égarent dans toutes sortes de mauvais chemins. Et nous trouvons dans le livre des Juges 6 cycles d'apostasie qui vont se succéder, toujours de la même manière. On retrouvera 6 fois les mêmes étapes. Et dans ces cycles, il y a 5 étapes à chaque fois qui reviennent. La première étape, c'est le constat de la situation d'apostasie. C'est d'ailleurs le verset 1 de notre passage qui dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort ». Donc les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ça vous le retrouvez constamment dans le livre des Juges, parce que à chaque fois les enfants d'Israël retombent dans ce problème-là. La deuxième étape, c'est l'oppression, puisque Dieu va susciter un ennemi à Israël pour les corriger, pour les faire revenir dans les voies de Dieu. Et ça, ça peut durer plus ou moins longtemps. Dans certains cas, ça va durer quelques années, et dans notre cas, ça a duré 20 ans. Troisième étape, c'est la repentance du peuple. Au bout d'un moment, le peuple comprend qu'il est sur une mauvaise voie, il demande pardon à Dieu. Quatrième étape, Dieu suscite un juge pour délivrer son peuple. Et à chaque fois, le peuple est délivré de l'ennemi. Et cinquième étape, il y a un temps de paix et de prospérité qui va être sur le peuple après la victoire. Parce que le peuple vit en suivant les commandements de Dieu. Et puis au bout d'un certain temps, alors c'est variable, ça peut être 20, 30, 40, des fois 80 ans de paix. Et puis au bout d'un moment, le peuple retombe dans les mauvaises habitudes et on revient au début, c'est-à-dire l'apostasie, et ça va repartir pour un nouveau cycle. À nouveau l'oppression, la repentance, libération et paix. Il y a eu en tout 12 juges qui se sont succédés dans cette période que couvre le livre des juges. Donc on est avant les rois. Saül, c'est le premier roi d'Israël qui sera nommé après. Mais actuellement, c'est les juges. Et on va considérer aujourd'hui donc Déborah, qui était un juge, un de ces 12 juges. Déborah, qui a été remarquable par son témoignage spirituel dans une période de débâcle, dans une période d'échéance spirituelle, elle a donné le chemin à suivre. Et donc, nous allons tirer des leçons pour nos propres existences, parce qu'elle a été courageuse à un moment où le peuple avait perdu espoir, eh bien, elle a donné le chemin à suivre, elle a gardé l'espoir. Il suffit d'une personne, parfois, pour donner la bonne direction. Et ça, c'est ce que Déborah a fait en son temps. Le premier point, c'est donc la situation du peuple d'Israël, on part de là. On voit que le cœur humain est tortueux, il est méchant, il revient toujours dans les mauvaises habitudes, le verset 1. Les enfants d'Israël firent encore, on peut souligner le mot encore, c'est déjà revenu. Ça fait déjà la 5e fois depuis le début du livre qu'on retrouve cette expression, une expression qu'on retrouve beaucoup de fois dans le livre. Et là, c'est la 5e fois, ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ça montre quoi? Ça montre que malgré que le peuple avait eu des bénédictions, malgré les victoires qu'il avait connues, ce n'est pas une garantie pour marcher tous les jours dans les voies du Seigneur. À un moment donné, on peut pécher, on peut s'égarer et on peut retomber dans une vie de péché. Donc ça montre la nature humaine. Que si nous ne faisons rien, si nous ne veillons pas sur notre âme, immanquablement nous allons retomber dans le péché. C'est la nature humaine qui est comme ça. C'est pourquoi c'est indispensable de prier tous les jours, parce que si vous ne priez pas tous les jours, vous êtes déjà en danger. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu pour vous nourrir spirituellement, eh bien vous allez être affaibli. Donc ça, c'est notre part. Si nous ne faisons pas notre part, comme manifestement le peuple ne l'avait pas fait, eh bien nous allons finir comme eux en nous éloignant et en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Nous avons un cadre. Le cadre, c'est prier tous les jours, lire la parole tous les jours. Et ça, c'est notre part. C'est comme il y a cette image, on met un mort dans la bouche des chevaux pour les diriger. Eh bien, nous avons un cadre pour qu'on soit dirigé. C'est à nous de marcher dans ces voies-là. Sinon, nous serons comme ce cheval sauvage, insoumis à Dieu. Le texte dit que Éhud était mort, au verset 1. Qui était Éhud? C'était un de ces fameux juges précédents, un des juges qui était avant Déborah. Il était mort et il était, qu'est-ce qu'on sait d'Éhud? Il était gaucher. Il avait aussi été utilisé par Dieu pour vaincre le roi ennemi qui s'appelait Églon, le roi de Moab de l'époque, qui oppressait Israël. Et après la grande victoire qu'il a obtenue sur le peuple de Moab, il y a eu 80 ans de paix, donc un grand temps de prospérité, de tranquillité. Et on peut dire que si on retient quelque chose de ce juge, hein, il y a, des fois sur des juges, il n'y a que quelques versets. Déborah, il y en a un peu plus, ça dépend en fait des juges. Mais ce qu'on peut retenir de Ehud, qui n'est pas très connu finalement, c'est que c'est un de ces juges qui a laissé derrière lui le plus grand témoignage de paix, parce que 80 ans de paix, c'est assez remarquable. Et ça nous parle du témoignage que nous-mêmes, nous allons laisser derrière nous. Quel témoignage nous allons laisser derrière nous? Est-ce que c'est un témoignage de paix? 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, c'est Paul qui parle. Il dit, frères, on pourrait dire frères et sœurs, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Paul s'adresse à des chrétiens et il leur dit de vivre en paix. Est-ce que ce n'est pas normal pour des chrétiens de vivre en paix? C'est normal. Pourtant, il leur demande de vivre en paix. Ça veut dire que, malgré que ce soit normal, il y en a quand même qui avaient des tensions, qui avaient des accrochages, qui avaient des revendications les uns vis-à-vis des autres, et il y avait des conflits. Alors que nous sommes appelés à vivre en paix. Alors nous devons surmonter les conflits, surmonter les différences pour vivre en paix. C'est quand même la volonté de Dieu pour l'Église. Que l'Église, la Bible dit, l'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors est-ce que vous procurez la paix autour de vous? Nous sommes des artisans de paix, nous devons transmettre la paix de Dieu. Parce que si vous arrivez quelque part et que vous engendrez des conflits, vous commencez à critiquer, à juger, à mettre les uns contre les autres, c'est que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, le pardon, la réconciliation. Et je vous souhaite vraiment de vivre la paix de Dieu. Déjà, l'avoir dans votre cœur, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas la paix de Dieu dans votre cœur, comment vous allez transmettre la paix autour de vous? Déjà, vivre la paix de Christ, et ensuite, témoigner de cette grâce. Et là, vous aurez une vie épanouie et heureuse. Si vous désobéissez à Dieu, par contre, comme ici le cas d'Israël, vous serez opprimé, parce que Dieu ne le permettra pas. Regardez le verset 2. Le texte dit « L'Éternel les vendit entre les mains de Jabin. » Donc c'est le peuple d'Israël. Hein. Ils avaient désobéi, les enfants d'Israël. « Il les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. » Donc c'est l'Éternel qui a suscité cette opposition dans un but positif, c'est de réveiller son peuple qui s'était endormi et de le ramener dans les voies du Seigneur. Alors, vous ne pouvez pas désobéir à Dieu, comme le fait le peuple ici, faire ce qui déplaît à l'Éternel, et puis vivre dans la paix. Il y a quelque chose qui ne colle pas. À un moment donné, il y a des oppositions qui vont se dresser, il y a des conflits qui vont venir, mais pour nous faire ramener, on va être sous domination, on va être sous la domination de l'ennemi, mais c'est pour nous faire réagir. Et quand vous désobéissez à Dieu, même vous créez une sorte d'appel d'air au malin dans votre vie. Éphésiens 4, verset 26 dit ceci. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » On voit ici que le péché, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, mais le péché, si vous péchez, si vous entretenez des péchés, alors vous êtes en train de donner un accès au diable. C'est un peu cette histoire ici. Les enfants font ce qui déplaît à l'Éternel, donc ils pêchent, et ils donnent un accès à l'ennemi pour les dominer. Et ils vont en subir les conséquences. Jabin, c'est un ennemi du peuple de Dieu, donc c'est son nom. Hein. Ils sont entre les mains de Jabin. Jabin, c'est le roi de Canaan. Un ennemi du peuple de Dieu. Alors ce qu'il faut remarquer chez Jabin, c'est que c'est un ennemi du peuple de Dieu, mais qui est à l'intérieur du pays. Il vient de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Israël a conquis le pays de Canaan, ils ont laissé à l'intérieur certaines tribus, alors que Dieu avait dit, vous devez tout dévouer par interdit. Et donc, il y avait certains qui étaient restés, donc ces Cananéens qui étaient là. Il n'y aurait pas eu ce problème si, au moment de la conquête, ils avaient vraiment obéi à Dieu et fait place nette, mais ils avaient obéi partiellement. Et cette obéissance partielle leur a coûté cher parce que ses ennemis qui étaient potentiellement là se sont aussi affermis. Ils étaient un peu calmés au début, mais ils ont pris du poil de la bête, ils se sont redressés et ils ont commencé à attaquer de l'intérieur. Voyez, l'obéissance partielle, c'est comme une désobéissance déguisée. Obéir partiellement à Dieu, ça veut dire désobéir. On connaît bien l'obéissance partielle de Saül, qui lui voulait... Alors lui, dans sa tête, il avait obéi entièrement à la voix de l'Éternel. C'est ce qu'il dit à Samuel. Il dit, moi j'ai fait tout ce que l'Éternel a demandé, mais dans la réalité des faits, il avait épargné Agag, le roi des Amalécites. Le peuple avait offert les meilleures bêtes des Amalécites qui devaient être dévouées par interdit. Il les avait offertes en sacrifice à l'Éternel. Donc on voit que c'est une obéissance vraiment très partielle. Et pour lui, dans sa tête, il disait « Mais moi, j'ai obéi à tout ce que l'Éternel a demandé. » Vous voyez comme quoi on peut être soi-même trompé par nos propres pensées. Et donc Samuel l'a repris et lui a dit « La royauté te sera enlevée pour être donnée à un autre. » C'est à partir de ce moment-là qu'il a perdu son autorité. Concernant Jabin, il avait donc 900 chars de guerre. C'est les armes les plus puissantes de l'époque. C'est l'équivalent des tanks d'aujourd'hui. C'est une arme extrêmement puissante. Et le peuple d'Israël, en face, n'avait pas de chars. Donc, forcément, ils étaient sous la domination de ces ennemis très puissants. Et ils ne pouvaient pas résister avec leurs armes. C'était des petites armes à côté des armes de l'ennemi. Mais nous croyons... Nous, étant croyants, nous avons une arme secrète. Et ils avaient une arme secrète qu'ils ignoraient. C'est-à-dire que face à l'ennemi, nous avons une autre arme qui est une arme spirituelle, qui est la foi dans notre Seigneur. Ils avaient cette arme-là, mais ils ne l'ont pas utilisée. Jésus a prévu pour nous un revêtement de puissance. Il dit « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit ». Donc, il a une arme pour nous. Sans cet équipement, vous ne pourrez pas triompher dans les combats spirituels. Le peuple n'avait pas revêtu cette arme de la foi et ils étaient donc sous la domination. Le peuple va se repentir seulement après 20 ans. Il aurait pu se repentir plus tôt, mais pendant 20 ans, ils ont subi la domination. Vous voyez comme quoi l'être humain est toujours lent à se repentir, à revenir à Dieu. Il sait qu'il doit le faire, mais il dit « je le ferai demain » et il repousse à chaque fois « demain, demain ». 20 ans, quel temps perdu! Pourquoi tarder? Pourquoi tarder à se repentir? Certainement à cause de l'orgueil. Dans le cœur humain, il y a de l'orgueil, il y a de la suffisance et on ne veut pas revenir à Dieu s'humilier. Et à cause de cet orgueil, ils pensaient toujours pouvoir s'en sortir, mais non, ils se sont enfoncés pendant 20 ans. Donc si vous voulez vraiment être libre, venez au Seigneur, repentez-vous, ça c'est le message de la parole de Dieu. Ne résistez pas à l'appel de Dieu, l'appel à la repentance, et venez dans ses voies. En voulant être libres par eux-mêmes, ils se sont retrouvés esclaves du péché. Ça, c'est Jésus qui le dit dans Jean 8, 34. « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libres. » Se livrer au péché, c'est se mettre une chaîne et vous ne pourrez pas vous l'ôter vous-même. Mais si vous venez à Jésus, c'est lui qui vous affranchira de ce péché qui vous libère vraiment. Ça, c'était le premier point, c'est la situation spirituelle. Deuxième point, maintenant, nous arrivons à Déborah et son ministère. Le ministère de Déborah, d'abord, son nom, que signifie le nom Déborah? Ça signifie abeille. Les abeilles sont travailleuses. Elles se mettent toutes au service dans la ruche. Ça me fait penser à l'Église. L'Église doit être une ruche où tout le monde doit être au service de Dieu. Chacun a quelque chose à faire. Ne laissez pas les responsabilités sur les autres. Prenez votre part à la tâche. Donc on voit que déjà, il y a le côté travailleur. Ensuite, les abeilles sont fortes quand elles sont ensemble. Une abeille toute seule, elle n'est pas très forte. Hein. Elle ne peut pas faire grand-chose toute seule, mais... Si c'est un essaim d'abeilles qui vient en même temps, alors là, oui, là, ça fait des dégâts parce qu'une personne, elle doit fuir. Sinon, elle est terrassée par cet essaim d'abeilles. Ils sont puissants quand ils sont ensemble. Eh bien, les chrétiens, ils doivent être unis ensemble dans un même esprit et là, ils sont puissants par le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis, les abeilles produisent du miel. Ça, c'est une très bonne nourriture, très bénéfique pour l'organisme, avec des nutriments. Et on apprécie bien le miel. Et ça nous parle de cette parole que nous devons répandre autour de nous. Et 1 Thessaloniciens 5:11, une parole pour encourager, pour exhorter. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. S'exhorter, c'est apporter une parole d'encouragement, une parole de grâce. C'est comme une nourriture, c'est comme un peu ce miel qui va faire du bien, qui va fortifier. Et c'est ça dont on a besoin dans l'Église, c'est de s'exhorter les uns les autres. Donc Déborah, l'abeille. Déborah était aussi une prophétesse. Alors c'est caractéristique des prophètes, ils sont à l'écoute de Dieu pour transmettre le message que Dieu veut donner au peuple. Les prophètes enseignaient le peuple aussi. Les prophètes étaient des guides pour reprendre le peuple quand ils avaient péché, donc elle était spirituellement bien établie. C'était des leaders spirituels pour montrer aussi comment résister à l'influence du monde. Romains 12:2, parce que ça, c'était déjà le problème à l'époque de Déborah, mais c'était le problème à l'époque de Paul, on le voit dans l'Église. Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ça, c'était les chrétiens de Rome. Il y avait aussi le monde et son influence à Rome. Il y avait la mentalité romaine avec son idolâtrie, avec l'immoralité. C'était quelque chose de commun, cette vie de débauche. Et il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire à la mentalité du monde dans lequel vous vivez, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ben, de même que Déborah a connu ce temps d'influence, Paul l'a connu à Rome, nous le connaissons ici, eh bien, nous devons aussi résister à cette influence et ne pas nous conformer. Et puis Déborah était aussi reconnue comme juge en Israël, c'est-à-dire à l'époque c'était la plus haute fonction de leadership puisqu'il n'y avait pas encore les rois, on l'a dit. Et c'est d'ailleurs la seule femme qui est désignée comme juge parmi les 12 juges qui sont mentionnés dans le livre des juges. Elle a été désignée par Dieu, c'est pas elle qui s'est promue juge par elle-même, mais c'est d'abord un appel de Dieu, un choix de Dieu, de même que prophétesse. Elle était déjà prophétesse, puis Dieu l'a établie juge. C'est donc un ministère que Dieu lui a confié. Et c'est là où on voit que ça vient de Dieu, parce que ça ne doit pas venir des hommes, c'est spirituel. Et ce qui est remarquable, c'est que son autorité spirituelle qui venait de Dieu a été reconnue par le peuple d'Israël, notamment même par les autres hommes dirigeants. On peut parler de Barak, qui était le chef des armées, et tous les hommes ont reconnu qu'elle était le juge désigné par Dieu. Et ils ont reconnu que c'était le choix de Dieu sur sa vie, l'appel de Dieu sur sa vie, et ils se sont donc soumis à la volonté de Dieu. Et pour qu'il y ait cet accord, c'est donc que, ben, il y avait une évidence. Parce que, rappelons le contexte, dans le contexte, il n'y avait que des hommes qui dirigeaient partout. Donc une femme qui dirige, c'était tout à fait hors de leur culture, de leur manière de faire, de leurs habitudes. Ça allait, certainement que ça devait choquer. Mais néanmoins, ben comme ça venait de Dieu, ils se sont soumis au choix de Dieu. Et c'est aussi ça les ministères. Les ministères, c'est d'abord le choix de Dieu et ensuite la reconnaissance des hommes que Dieu a mis dans le cœur de l'un, de l'une ou de l'autre. Et c'est ainsi que Dieu peut appeler comme il le désire. C'est vrai, ça allait à l'encontre de leur culture, mais ils ont accepté le choix de Dieu. Maintenant, quel était le rôle des juges à l'époque ? Eh bien, ils étaient établis pour régler les différends du peuple. Des fois, ils avaient des contestations, des disputes, alors ils n'arrivaient pas à s'entendre, alors ils allaient devant le juge, et le juge donnait la parole de Dieu pour eux. On avait déjà ça au temps de Moïse, d'ailleurs, qui remplissait ce rôle pour le peuple. On sait qu'il s'était épuisé à juger le peuple, et que Jéthro lui a dit « Mais tu devrais avoir des aides, donc les anciens vont se lever pour juger les petites affaires, et Moïse gardait que les grandes difficultés. » Donc les juges faisaient respecter les commandements de Dieu. On arrive au troisième point maintenant, c'est le message de Déborah à Barak. Barak, on sait que c'était le chef des armées, Alors, que signifie le nom Barak? Barak, ça signifie foudre. Pourtant, il n'était pas très vaillant. Ce n'était pas un foudre de guerre. Alors que nous devrions être prêts pour le combat, eh bien, lui, il était plutôt réticent au combat. Barak recule devant l'ennemi. Et pourtant, au verset 6, il reçoit des directives de la part de Dieu. Il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles au combat, il faut que tu ailles combattre Sisera. La version Semeur dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc, Déborah est utilisée par Dieu pour donner des paroles de Dieu. Et Déborah reçoit de Dieu tout le plan. Elle lui donne le plan. Le lieu où il faut aller, tu vas au mont Tabor. Le nombre de soldats, tu auras besoin de 10 000 hommes. Il y a tout. La stratégie de Dieu, elle lui dit que Dieu va attirer Sisera dans cet endroit-là, avec ses chars, avec ses troupes, et qu'il va te le livrer entre les mains. Donc il n'y a plus qu'à le faire. On peut dire que c'est un tapis rouge. Avec une parole de Dieu comme ça, vous avez tout pour y aller. Et pourtant, Barak, qui est censé être le chef des armées, il ne veut pas aller, même avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne lui suffit pas. La parole de Dieu est encore pour lui trop abstraite. Il dit, si tu ne viens pas avec moi, donc à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak avait reçu pourtant l'autorité spirituelle. Barak était quand même le chef des armées, donc il aurait pu y aller avec l'autorité, avec l'autorité du Seigneur, mais il n'exerçait pas son autorité. Voilà l'image d'un croyant qui a reçu de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, pour avancer, mais qui ne veut pas y aller parce qu'il ne croit pas qu'il en a l'autorité. Or, nous avons reçu une autorité spirituelle de la part de Dieu, c'est pour aller au combat, spirituel, prendre les armes de Dieu et combattre dans la foi. Alors, Déborah revient encore sur Barak pour l'encourager, l'exhorter. Elle lui dit « Lève-toi, lève-toi » parce que Barak devait se lever, ça veut dire qu'il avait un peu baissé les bras, il était comme assis, alors il fallait se lever spirituellement, prendre sa position de leader. Pour servir Dieu, il faut se lever, il faut être volontaire, il faut prendre ses responsabilités et pas laisser toujours les autres, que les autres s'occupent de tout. Regardez ce que Dieu dit à Josué, par exemple, Josué 1:7. Dieu lui demande de se fortifier, de prendre courage parce qu'il doit rentrer dans la conquête. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et frères et sœurs, nous devons nous fortifier dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la foi, prendre courage parce que on est dans un milieu décourageant. Donc Déborah dit à Barak que la victoire sur ses ennemis, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'est le mot qui revient toujours dans la parole de Dieu, c'est aujourd'hui. Le combat ne va pas durer des mois ou des semaines. Dieu va prendre le contrôle de la situation. Pour rappel, ça faisait 20 ans que le peuple était sous la domination de Sisera. Eh bien, Déborah dit en un seul jour, Dieu va renverser la situation. Notre Dieu, c'est le Dieu du miracle. Il change les situations en un seul jour. Vous pensez peut-être qu'il faudra des mois ou des années pour que la situation change, mais par Déborah, Dieu dit « Aujourd'hui, Dieu livrera ce peuple ennemi entre tes mains. » Donc Déborah rappelle à Barak que Dieu marche devant lui, et c'est très important pour nous aujourd'hui de savoir si Dieu marche devant nous ou pas, parce que si Dieu marche devant nous, bien c'est la victoire qui est assurée, parce que Dieu combat pour nous. Mais si nous marchons tout seuls sans Dieu, si nous ne suivons pas Dieu dans ses voies, dans sa volonté, là, c'est la défaite. Moïse avait compris ce principe. Moïse ne voulait pas partir si Dieu ne marchait pas devant lui. Exode 33:15, Moïse dit à Dieu, « Donc si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne partirons point d'ici. » Donc tant que Dieu n'avait pas donné le signal de départ, ils ne quittaient pas le lieu où ils étaient arrêtés. Et ça, c'est bien d'observer la volonté de Dieu. Et puis au verset 15, on voit que l'Éternel a combattu pour son peuple, en fait, Sisera a eu la victoire parce que Dieu était avec eux. Donc Sisera a été vaincu, pardon, parce que Dieu était avec Barak et Dieu va mettre en déroute nos ennemis. Sisera était pourtant puissant, il avait toujours ses 900 chars, hein, il était toujours l'armée la plus puissante, mais en définitive, ils ont été vaincus et il a dû fuir à pied. Et ça, ça nous montre que si on pouvait voir dans le monde spirituel, on verrait la fuite et la défaite de nos ennemis. Quand les 70 disciples sont revenus de mission, ils étaient allés prêcher la parole de Dieu, ils sont allés guérir les malades. Eh bien, Jésus a dit, dans Luc 10, 18, « Je voyais Satan tomber du ciel. » Ça, c'est la défaite de Satan. Ça, c'est dans le monde spirituel. C'est comme Sisera qui court, il est vaincu, il est défait et il s'en va. Eh bien, si on pouvait voir spirituellement, quand nous prenons des victoires, c'est l'ennemi qui fuit, c'est l'ennemi qui tombe. Et puis je termine avec un quatrième point, c'est la mort de Sisera, la mort de l'ennemi du peuple de Dieu. C'est au verset, alors on va lire le verset 17, dans Juges 4. « Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait la paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, chez moi, entre chez moi. Ne crains point. » Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait et lui donna à boire, et elle le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» Tu répondras « Non ». Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit de sa tente et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches ». Il entra chez elle et voici Sisera était étendu, mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Donc là, on arrive à la fin de cette histoire avec la mort de Sisera. Jaël, c'est une autre femme qui est mise en valeur dans le livre des juges, accueille Sisera chez elle. Alors son nom, Jaël, ça signifie chèvre des montagnes. Chèvre des montagnes. Et elle, donc les chèvres, on sait que ce sont des bonnes grimpeuses. Et nous savons que nous devons monter sur la montagne pour rencontrer Dieu. Les chèvres sont aussi curieuses de tout. Et ça, ça nous montre que nous devons toujours apprendre quelque chose de la part de Dieu. Il y a des chrétiens... Ils vivent juste avec ce qu'ils ont appris, mais ils n'apprennent plus. Et si nous n'apprenons plus, nous ne progresserons plus. Donc, on doit toujours chercher à apprendre davantage. Jaël voit bien l'ennemi en Sisera. Et là, il y a un point important à souligner, c'est qu'elle va prendre une position spirituelle. C'est-à-dire que si vous regardez son couple, en fait, son mari était en paix avec Sisera, l'ennemi. Il était en paix avec Jabin. Jabin et Sisera. Et elle était censée suivre son mari. Mais elle a pris une autre position. Elle a pris position pour Dieu et elle a été contre Sisera. C'est un petit peu l'histoire de d'Abraham et Térakh. Térakh qui servait les idoles, c'était le père d'Abraham, mais il n'a pas suivi son père. Il a pris une position spirituelle, il n'a pas voulu de compromis. Il a choisi de suivre Dieu. Et puis Jaël a été courageuse, puisqu'elle a pris un pieu avec lequel on plantait les tentes, un gros pieu, qu'elle a utilisé pour le planter donc, dans la tempe de Sisera. Et donc, elle n'a pas reculé devant le combat, elle n'a pas tremblé lorsqu'il a fallu neutraliser un ennemi du peuple de Dieu. Ça nous parle du combat spirituel, des décisions radicales, parce que nous avons un adversaire et nous devons le combattre. Éphésiens 6, 11 nous dit ceci, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons un ennemi, il veut détruire, il veut faire du mal, il veut éloigner de Dieu, et nous, nous devons le combattre avec ses armes spirituelles. Et comme Jaël l'a fait dans le cas de Sisera, nous devons être fermes et régler les choses d'une manière définitive. En conclusion, on a ici Déborah, une femme de Dieu remarquable. Elle s'est levée pour le combat, alors que les hommes étaient sans force en Israël. Une femme s'est levée. Que Dieu soit béni pour Déborah, qui a relevé ce défi. Et ça veut dire que nous devons continuellement rester en communion avec Dieu pour ne pas devenir sans force spirituelle comme le peuple l'était devenu à l'époque. Parce que si le peuple était sans force, c'est qu'il avait pris de la distance avec l'Éternel. Donc ça nous parle d'être attention à la négligence. Ensuite, nous avons Barak, qui est l'exemple du croyant, mais lui qui attend toujours que les autres se lèvent pour se lever, qui attend toujours que quelqu'un se mette devant pour suivre. Alors c'est bien déjà de faire quelque chose, mais il devait aussi prendre ses responsabilités, il devait prendre son autorité spirituelle et faire l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Il devait d'abord prendre conscience de son autorité pour la mettre en œuvre. Et puis enfin, nous avons Jaël, qui est l'autre femme remarquable, qui nous laisse l'exemple d'une femme sans compromis qui va mettre un terme à la vie de cet ennemi qui s'appelait Sisera. Elle a discerné dans cette situation, d'une manière spirituelle, qu'il fallait neutraliser l'ennemi. Et elle ne s'est pas laissée influencer par ce que son mari pensait par rapport à la situation, lui qui était dans le compromis. Elle a pleinement suivi la volonté de Dieu et elle a été mentionnée pour cet exploit dans la parole de Dieu.